Des agressions sexuelles en série, trois meurtres, une courte cavale et une éruption de colère dans le tribunal. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire de l'ancien plus jeune tueur en série de France. Bienvenue dans un nouvel épisode de Murder, Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux juste vous faire un petit avertissement avant qu'on commence l'épisode. Cet épisode traite de agressions sexuelles en série. Donc si c'est un sujet qui vous gêne ou qui vous stresse, je vous recommande de passer à l'épisode suivant s'il est disponible, ou tout simplement de retourner à l'épisode précédent si ça vous arrange. Sur ce, je vous présente l'affaire Vincenzo Aiutino. Vincenzo Aiutino, né le 11 mars 1970 en Suisse, mais grandit en Belgique. On ne sait pas grand-chose de sa mère, mais on en sait pas mal sur son père. Celui-ci s'appelle Domenico Aiutino et il annonce la couleur dès la naissance de Vincenzo. En effet, il refuse de reconnaître son fils. Par contre, il reste quand même pour l'élever, assurant au petit une enfance instable et pleine de maltraitance. Vincenzo voit souvent son père battre sa mère, et à 5 ans, il le voit violer sa sœur aînée. Vincenzo subit aussi les attaques de son père. Quand il fait dans son lit, son père le force à manger ses excréments. Un peu extrême comme discipline. On ne saura jamais si c'est pour échapper à ce qu'il subit ou si c'est un premier accès de rage, mais Vincenzo met le feu à la maison familiale alors qu'il n'a que 7 ans. Sa sœur subira de grosses brûlures à cause de cet incendie. Pour cet acte, il est signalé à la justice des enfants, mais n'est pas pris en charge. 5 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, Vincenzo entre dans la délinquance. Il s'inscrit dans un club de foot pour pouvoir voler dans les vestiaires. Il est rapidement pris et est confié à un centre pour handicapés. Il découvre là-bas le métier de mécanicien, mais il n'arrive pas à suivre les cours à cause de son rejet de l'autorité et de sa tendance à refuser d'admettre ses erreurs. Il finit donc par être renvoyé. En 1985, à l'âge de 15 ans, il est en stage sur un chantier lorsqu'il s'exhibe devant une femme. Il est alors immédiatement renvoyé et envoyé dans un établissement psychiatrique. L'année suivante, Vincenzo abandonne complètement sa scolarité, sans avoir obtenu le moindre diplôme. Il se met à travailler dans un garage, mais est renvoyé parce qu'il utilise le téléphone pour appeler des femmes et leur raconter des choses obscènes. Un homme courtois comme on n'en a jamais vu. À ce moment-là, il arrondit ses fins de mois en volant des voitures et en vendant du cannabis. C'est pourquoi il traverse régulièrement la frontière française pour traîner dans la ZUP de Mont-Saint-Martin. Au fil du temps, ses méfaits se multiplient. En janvier 1988, il est placé dans un établissement psychiatrique en Belgique après avoir commis des attentats sexuels sur une mineure et s'est introduit dans le domicile d'une femme pour lui imposer une fellation. Mais il finit par être relâché à la demande de son père, qui considère qu'il doit changer par lui-même. Perso, je pense que dans son cas, un peu d'aide, ça aurait pas fait trop de mal. En 1989, Vincenzo est arrêté pour vol avec violence. La même année, il est arrêté pour une bagarre dans un bar. Il est également arrêté pour s'être exhibé devant des femmes et leur avoir demandé de le masturber. Durant la même période, à Longwy, dans le nord-est de la France, il agresse sexuellement des femmes et les poursuit jusque chez elles. En 1990, il agresse une automobiliste en panne. Il l'entraîne dans un endroit désert et se déshabille en lui demandant de le masturber. Lorsqu'elle hurle, il l'étrangle et la laisse pour morte. Il est finalement condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Durant sa détention, en 1991, il épouse Marie-Antoinette Cala, avec qui il aura un fils. À peine sorti de prison, il est de nouveau arrêté pour agression sur la voie publique. Mais ses crimes sont sur le point de prendre une toute autre ampleur. Isabelle Le Nénan est une jeune attachée commerciale décrite comme épanouie, équilibrée et amoureuse de son fiancé. Le 6 août 1991, elle quitte son travail à Longwy pour aller déjeuner chez une amie. Alors qu'elle est en route, elle est abordée par Vincenzo, qui la tire sur son lieu de travail, qui est peut-être un garage, les sources ne sont pas super claires, en lui demandant de l'aider à porter un objet lourd. Une fois là-bas, il s'exhibe devant elle et tente de l'agresser sexuellement, avant de la tuer à coups de barre de fer. Il part ensuite déposer son corps dans la forêt de Turpange, en Belgique. L'absence d'Isabelle est remarquée dès 15h le jour de sa disparition. Ses parents sont appelés par son travail et ils se mettent immédiatement à sa recherche. Ils ne tardent pas à retrouver sa voiture sur un parking près d'un rond-point, avec un sandwich encore à l'intérieur. Après cette découverte, le père se rend au commissariat de Longwy, mais Isabelle est majeure, alors sa disparition est considérée comme une fugue et une simple recherche dans l'intérêt des familles est lancée. Les policiers justifient cela par le fait qu'Isabelle ressentait depuis un moment une certaine pression concernant l'avancement de ses démarches matrimoniales. En effet, elle voulait se marier rapidement, son père aussi voulait qu'elle se marie rapidement, mais son fiancé, engagé dans de longues études, voulait attendre. La famille n'est pas satisfaite de cette conclusion et continue les recherches. Le père d'Isabelle est convaincu que ce n'est pas sa fille qui a garé sa voiture là où elle a été retrouvée. En effet, selon lui, elle se gare toujours avec les roues droites, et cette fois les roues étaient tournées. Pour lui, c'est un signe qu'il ne trompe pas. Il demande à la police d'effectuer un relevé d'empreintes sur la voiture, mais les policiers refusent. Le père d'Isabelle ne se démonte pas et continue les recherches. Il essaie même d'initier des contrôles de véhicules, ce que les policiers l'empêcheront de faire. Le 10 août, les proches d'Isabelle retrouvent son sac à main dans un terrain vague, près de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Les policiers s'impliquent enfin dans l'affaire et effectuent des recherches. Des chiens les mènent à des bacs de décantation qui sont ensuite pompés, en vain. Les policiers lancent alors un appel à témoins dans la presse. Plusieurs témoins se manifesteront suite à cet appel, certains disant avoir aperçu Isabelle à Metz. Sans élément d'ordre pénal, l'affaire est classée le 22 août 1991. La famille d'Isabelle décide alors de déposer plainte pour enlèvement et séquestration, espérant ainsi relancer l'enquête. Quelques jours plus tard, une autre jeune femme disparaît. Le 13 septembre 1991, Isabelle Christophe, une employée de 21 ans au Auchan de Mont-Saint-Martin, est abordée par Vincenzo alors qu'elle vient de quitter le travail, toujours avec le même prétexte de l'aider à porter un objet lourd. Il l'attire dans son garage, où il la viole avant de l'étrangler et de l'achever à coups de barre de fer. Il enroule ensuite le corps dans un drap blanc et le dépose dans la forêt de Turpange, pas loin de là où il avait déposé le corps d'Isabelle le Nénan, quelques semaines auparavant. Encore une fois, les proches d'Isabelle Christophe se rendent compte que quelque chose cloche le jour même. Les policiers sont alertés et engagent des recherches, mais ils trouvent dans l'appartement d'Isabelle Christophe une lettre où elle parle d'une déception amoureuse. Dans cette lettre, elle parle également de suicide, ajoutant à cela le fait qu'elle avait mal vécu le divorce de ses parents 10 ans plus tôt et le décès de sa sœur 2 ans plus tôt. Les policiers pensent à un suicide, malgré les ressemblances avec l'affaire Isabelle le Nénan, qui atteint un mois plus tard un triste rebondissement. Le 20 octobre 1991, le corps d'Isabelle le Nénan est retrouvé, et les policiers belges, qui ont entendu parler des disparitions, préviennent leurs homologues français. Ces derniers commencent à explorer la piste du crime sexuel, car le corps a été retrouvé nu. Ils examinent donc les dossiers des délinquants sexuels de la région et découvrent 4 suspects potentiels. Ils se concentrent plutôt sur un seul de ces suspects, qui vit et travaille près de là où les 2 Isabelles ont disparu. Ce suspect, c'est évidemment Vincenzo Aiutino. Celui-ci est interpellé le 20 novembre et se vante de ses précédents méfaits dans la salle d'interrogatoire. Par contre, il nie être impliqué dans les 2 disparitions et donne à chaque fois un alibi que sa femme confirme. Il finit ainsi par être relâché par manque de preuves et a le champ libre pour commettre son dernier meurtre. Bernadette Bourg est une visiteuse médicale de 40 ans. Alors qu'elle rend visite à un médecin le 24 février 1992, elle croise sans s'en rendre compte le chemin de son meurtrier. En effet, Vincenzo la voit alors qu'il est dans la salle d'attente et flash sur elle. Il sort donc et crève un pneu de la voiture de Bernadette. Quand celle-ci sort et voit son pneu à plat, il propose son aide. Il change le pneu et propose à Bernadette de venir se laver les mains chez lui. En effet, il habite pas loin. Bernadette accepte et suit Vincenzo. Elle se lave les mains chez lui, et alors qu'elle est sur le point d'ouvrir la porte pour sortir rejoindre sa voiture, il la pousse dans la cave qui est à côté. Bernadette fait de son mieux pour garder son calme et essaie de raisonner Vincenzo, mais lorsqu'il sort son sexe et tente de l'agresser sexuellement, elle se défend et se met à crier. Il lui donne alors des coups de barre de fer et la laisse, mourante, dans la cave. Il sort et parfumé des cigarettes sur un parking, prenant peu à peu conscience de la gravité de ce qu'il vient de faire. C'est la première fois qu'il commet un tel méfait chez lui. Il revient, descend dans la cave, pose une couverture sur sa victime et cache sa montre dans un chiffon ou dans un coin du sous-sol. Une fois cela fait, il vaque à ses occupations familiales pendant que Bernadette agonise dans la cave. Il finit par l'étrangler après le dîner. Une fois la nuit tombée, il part déposer le corps dans un bois à 20 kilomètres de chez lui. La disparition de Bernadette est signalée dès le lendemain, mais les policiers demandent à son compagnon de revenir plus tard. Celui-ci décide de débuter l'enquête lui-même et trouve le dernier médecin à qui Bernadette a rendu visite. Ce médecin lui signale qu'un homme dangereux, Vincenzo Aiutino, était dans la salle d'attente quand Bernadette est venue. Cette information est immédiatement transmise aux policiers. Ces derniers se rendent chez Vincenzo, mais personne n'est là. Il parle alors à sa voisine, qui leur dit que le jour de la disparition de Bernadette, elle a vu Vincenzo rentrer chez lui avec une femme qu'elle n'a jamais vue ressortir. Elle a ensuite vu Vincenzo déplacer plusieurs fois une Peugeot 205, similaire à la voiture que Bernadette conduisait. Le soir suivant, le 26 février, les policiers montent une planque au domicile de Vincenzo. L'ordre est donné de l'interpeller quand il monte dans son 4x4 avec sa femme et son fils, mais il arrive à s'enfuir, franchissant la frontière belge. Une commission rogatoire internationale est délivrée contre lui. Le lendemain, le père de Vincenzo se rend au domicile de son fils et trouve les policiers attendant devant. Il perquisitionne sa voiture et trouve dedans une cassette du groupe ZZ Top. Le père affirme que c'est sûrement à son fils vu qu'il lui a prêté sa voiture. Bernadette avait une cassette identique dans la sienne. Les policiers apprennent ensuite que la femme de Vincenzo est également revenue au domicile pour dévisser les ampoules de la cave, qui est donc fouillée peu après, en même temps que le reste de la maison. Les policiers découvrent au fond du sous-sol beaucoup de traces de sang, ainsi que la montre ensanglantée de Bernadette. Dans la cour, près de l'entrée, ils découvrent une barre de fer couverte de sang, et dans la machine à laver, il y a un pull aussi taché de sang. Les policiers belges découvrent de leur côté que Vincenzo se cache chez ses parents à Aubange le 27 février. Il est immédiatement arrêté. Il a sûrement dû être déçu d'apprendre qu'on ne pouvait pas tout simplement se cacher au premier endroit où les gens chercheraient. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Vincenzo clame d'abord son innocence, mais mis face aux preuves retrouvées chez lui, il finit par avouer les trois meurtres et indique où sont les corps de Bernadette et d'Isabelle Christophe. Ces derniers sont ainsi retrouvés le 28 février. À peine 22 ans, il est incarcéré à la prison d'Arlon, avec à l'époque le statut de plus jeune tueur en série français. Un statut dont il ne veut apparemment pas. En effet, en avril, il se rétracte et accuse son père, retardant ainsi son extradition vers la France, où les peines de sûreté sont plus sévères qu'en Belgique. Son père est rapidement mis hors de cause. Les avocats de Vincenzo tentent alors de le faire déclarer irresponsable pénalement, mais les experts le déclarent certes psychopathe, mais tout à fait accessible à une sanction pénale. Quelques jours plus tard, sûrement dans un accès de désespoir, Vincenzo s'évade après une prise d'otage perpétrée avec un couteau à beurre qu'il avait affûté, mais il est repris le jour même parce qu'il n'a nulle part où aller. Après tout, il a déjà été établi qu'il n'est pas doué pour trouver des cachettes. De retour en prison, il est condamné le 6 mai 1992 pour des affaires d'attentat à la pudeur à 2 ans de prison ferme. Ces affaires précèdent bien sûr les meurtres. Le 6 janvier 1993, il est condamné pour la prise d'otage et l'évasion à 3 ans de prison. En appel, sa peine sera allongée à 5 ans de prison. En mars 1993, sa femme, Marie-Antoinette, est mise en examen pour destruction de preuves et transport de cadavres. Elle a couvert Vincenzo et se serait débarrassée de la carte de crédit de Bernadette. Le 19 août, Vincenzo est extradé et atterrit à la maison d'arrêt de Metz. À partir de là, il accuse son beau-frère, le frère de sa femme, pour les meurtres. Selon lui, il l'a seulement aidé à se débarrasser des corps. Le 12 janvier 1996, alors qu'il a tenté de se suicider la veille, il est extrait de sa cellule pour une reconstitution, vêtu d'un gilet pare-balles. Cependant, il refuse de collaborer. Lorsque la reconstitution se termine, il quitte les lieux avec le sourire. Le procès de Vincenzo Aiutino commence le 2 mars 1998 à la cour d'assises de Nancy. Pour la première fois dans un tribunal, les personnes assistant à l'audience sont fouillées, et une vitre pare-balles a été installée pour protéger l'accusé, qui semble très décontracté. Il lance même des regards dragueurs à une journaliste. Malgré ses aveux, lorsque le procès commence, Vincenzo déclare n'être responsable que du meurtre de Bernadette Bourg. Sa femme, elle aussi accusée, se défend en disant qu'il était violent et qu'elle avait peur de lui, raison pour laquelle elle lui a obéi. Le couple se disputera devant tout le monde. Le 6 mars 1998, Vincenzo Aiutino est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans, ce qui le rend éligible à la libération conditionnelle à partir de février 2010. À la lecture du verdict, le père d'Isabelle Le Nénan crie « Assassin, tu vas crever !» À ces mots, Vincenzo bondit et essaie de l'agresser. Il faut presque une dizaine de personnes pour le retenir. Je ne comprends pas cette effusion. Après tout, c'est un assassin, et il va mourir un jour. Pas la peine de s'énerver. En ce qui concerne sa femme, Marie-Antoinette Aiutino est condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour destruction de preuves et transport de cadavres. Une fois en prison, Vincenzo ne se tient pas tranquille. En novembre 1998, il saccage 4 cellules à la maison d'arrêt de Nancy et agresse des surveillants. Il est condamné pour cela à 5 mois de prison. Décidément. D'autre part, il doit verser des dommages et intérêts aux victimes, mais avec son salaire de prisonnier, il n'envoie souvent que 15 centimes à la fois. Une somme dérisoire qui ne fait que rappeler aux familles tout ce qu'il s'est passé et qu'il est toujours en vie. Jusqu'à la condamnation de Sid Ahmed Rezala en 2000, Vincenzo Aiutino a été le plus jeune tueur en série de France. Il est libérable depuis 2011, mais toutes ses demandes de libération ont été refusées, la dernière datant de 2016. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire sur Twitter, @mwacpod. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, même s'il est en anglais, c'est @mwacblog. Il est en anglais, encore une fois. Enfin, si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez faire un petit don pour que je puisse améliorer le blog et le podcast. On a déjà eu une petite évolution, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro. Sur ce, allez regarder des vidéos d'animaux mignons pour vous détendre, et moi, je vous retrouve à la prochaine affaire. PS, j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, tous les liens sont dans la description. Salut !